On va aller rejoindre tout de suite Patrice Saint-Pierre. Bonjour, Patrice.
Bonjour, bon mardi à toi.
Patrice, évidemment que ça m'a interpellé l'information qui a circulé en fin de semaine en lien avec la résidence pour les aînés qui va fermer de Lens-Saint-Jean. Je pense que ça a touché toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'ailleurs.
Oui, bien écoute, c'est sûr qu'on a vu des personnes, des membres des familles, des gens qui demeurent dans cette résidence-là, qui ont tous, faut se le rappeler, là, plus de 80 ans, des gens qui étaient un peu bouleversés par la situation. Par contre, lorsqu'on prend un œil plus large, on s'aperçoit que cette situation-là est symptomatique de ce qu'on voit depuis, je dirais, le début des années 2000, où de très nombreuses résidences, et on en a déjà parlé dans nos chroniques, là, ont fermé. Pour différentes raisons. Premièrement, le seuil de rentabilité pour des résidences de 50 et moins est très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on en a vu disparaître beaucoup. Il y a eu
ben
les obligations
oui.
gouvernementales.
Patrice, je me demandais, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de résidences de 50 personnes et moins. Quand on dit que c'est plus difficile à atteindre, c'est en lien avec le nombre. Plus il y a de gens dans une résidence, plus c'est payant. Je ne sais pas trop comment voir ça.
Ben écoute, si tu regardes, là, en 1998, tu avais 134 résidences privées dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, tu en as autour de 95, donc tu en as pratiquement une quarantaine de moins.
Puis on est plus de monde.
Mais il y a au moins le double de places en hébergement qu'on avait à l'époque. Donc, on a de plus gros complexes qui ont été construits. À l'époque, on transformait beaucoup d'anciens presbytères, d'anciennes maisons, grandes maisons pour essayer d'accueillir des personnes. Mais très rapidement, on s'est aperçu que les obligations aussi qui étaient demandées en fonction, parce qu'au début, il faut le rappeler, il n'y avait pas de normes qui étaient imposées. Donc, il y a eu, puis la FADOC a travaillé très fort là-dessus. Là, ils ont été des précurseurs pour faire en sorte qu'il y ait des normes qui soient appliquées pour l'opération des résidences privées. Maintenant, ces normes-là aussi font en sorte que le gouvernement même est allé beaucoup plus loin, notamment avec l'instauration des gicleurs. Donc ça en a découragé
oui,
aussi
beaucoup.
Plusieurs. Et jumelé aussi maintenant à ça toute la question de la pénurie de la main-d'œuvre. Parce que opérer une résidence en milieu rural, comme c'est le cas à Lens-Saint-Jean, ben ça nécessite des défis aussi pour les préposés aux bénéficiaires, pour les cuisiniers, pour les préposés. Donc, il y a des défis qui sont nombreux, qui ne sont pas évidents, même pour la personne la plus intentionnée au monde. Parce que si vous regardez, Lens-Saint-Jean est la seule au Bas-Saguenay à posséder une résidence privée. Aucune autre de ces municipalités-là possède ce type d'hébergement-là. Donc, on voit qu'il y a une particularité qui n'est pas facile. On voit un peu ces complexes-là qui sont capables de survivre en périphérie, exemple d'Alma. On en a à Saint-Nazaire, on en a à La Brèque, on en a à l'Ascension, donc on en a à Saint-Gédéon. Donc, on voit qu'avec l'agglomération tout près, l'effet d'avoir du personnel est peut-être plus accessible. Donc, il y a des défis qui sont importants, mais c'est un drame ce que vivent ces personnes-là présentement, surtout avec un délai aussi court, un déracinement aussi profond, parce qu'il faut se le rappeler, les gens, ce qu'ils désirent, c'est demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Donc, il faudra voir la suite des choses. Actuellement, il y a un comité citoyen qui a été mis en place pour voir de quelle façon ils peuvent donner une survie à cette résidence-là. Il est certain que le modèle des coopératives d'habitation ou encore des OSBL d'habitation demeure un modèle qui est intéressant à regarder parce que ce n'est pas la notion de profit qui prime, mais on demeure toujours avec la même problématique par rapport à la question du personnel. Et ça, c'est un enjeu de taille pour aussi donner des conditions de vie qui sont intéressantes aux résidents.
Absolument. Mais c'est tellement dommage parce que c'est des résidences, tu sais, la famille est autour. Puis moins il y a de monde dans une résidence, plus tout le monde se connaît, plus c'est familial, plus c'est chaleureux. Ça ne veut pas dire que c'est pas chaleureux ailleurs, là, mais j'ai constaté ça. Puis je trouve ça, en tout cas, très, très, très dommage de voir ça dans l'actualité. Puis il y a des gens, des fois, ils peuvent penser qu'il y a des recettes faciles, mais il y a tellement de normes au niveau gouvernemental, puis c'est pas être préposé, puis être infirmière dans ces endroits-là, puis opérer tout ça, puis l'administration, c'est quelque chose.
Oui, puis c'est ça qui en a découragé plus d'un, c'est bien entendu. Puis c'est pour ça aussi qu'on demande au gouvernement du Québec de regarder de quelle façon il peut soutenir le milieu des résidences privées, particulièrement des petites résidences en milieu rural, parce que ce qu'il faut voir à ça aussi, hein, puis ça, faut pas se le cacher, annexe, c'est un cri du cœur aussi des municipalités rurales, parce que ce qu'ils ont vu au cours des années, c'est la fermeture de l'église, du bureau de poste, de la caisse des jardins. Et là, c'est une autre institution qui ferme dans le village, de leur épicerie. Donc, c'est aussi toute la vitalité des milieux, la vitalité des régions. Et ça, je pense que c'est un enjeu de société qui est important, que le gouvernement devra adresser d'une quelconque façon.
Autre chose que j'ai vu, c'était pas dans les sujets dont on devait discuter, mais tu dois l'avoir vu également, c'est qu'il y a une trentaine de chercheurs de l'Université Laval qui s'installent tranquillement, pas vite, dans la maison des aînés de Sainte-Foy, parce qu'ils veulent en faire un laboratoire vivant. Ça va leur permettre d'évaluer les universitaires, les chercheurs, le nouveau modèle d'hébergement pour faire mieux avec les personnes âgées. Puis, ils ont déjà des avancées, entre autres, tu sais, quand les personnes sont en CHSLD, ils ne voient jamais personne. Puis, quand ils voient plus de gens, bien là, les gens, ça change. Ils se mettent à vivre, ils se remettent à... Ils parlaient d'un monsieur qui s'est remis à jouer de l'accordéon, tu sais, alors qu'il était dans le CHSLD puis était complètement fermé. Puis, ils parlent aussi des nouvelles façons de faire avec le personnel, parce que travailler dans un CHSLD avec des règles comme avant, puis les maisons des aînés, quand on change les règles, puis on fait ça autrement, bien, il y a de la résistance aussi. Fait que je trouvais ça intéressant juste de l'aborder, parce que ça prend des gens qui regardent ce qui se passe là-dedans, là.
Bien, effectivement, cette nouvelle-là est sortie en fin de semaine. Donc oui, il y a des chercheurs de l'Université Laval actuellement qui sont en train, je te dirais, là, d'évaluer la pertinence de l'investissement qui s'est fait. Et déjà, on voit effectivement qu'il y a un impact sur la clientèle par rapport à la qualité de vie, par rapport à l'autonomie des personnes, par rapport au degré d'attention aussi de ces gens-là. Donc, on voit qu'il y a une dégénérescence qui est beaucoup moins longue, puis on voit qu'il y a une participation sociale aussi et physique qui est beaucoup plus importante de la part des résidents. Je te dirais, c'est une excellente nouvelle, d'autant plus qu'une maison des aînés à 75 millions lorsqu'on la construit. J'espère qu'on a fait les bonnes choses.
Oui, oui, oui.
Ceci étant dit, pour faire un éditorial qui est court, je ne suis pas surpris parce que le modèle de gestion de ces résidences-là est un modèle qui est complètement différent des CHSLD. On est aussi avec des clientèles qui doivent coter pour un certain type de milieu, mais il est certain que la façon dont ont été construits les résidences, la façon dont on les anime, la clientèle qu'on va chercher, c'est pas surprenant. Ce qu'il faut voir en parallèle à ça, c'est est-ce que c'est le modèle d'avenir? Oui, c'est un modèle d'avenir, c'est certain.
Mais il y en a d'autres.
Mais est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Ça, c'est l'autre affaire.
Bonne question.
À 75 millions pièces, ben il faut toujours se rappeler que c'est un modèle qui est tout à fait convenable pour ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire des solutions mitoyennes? Est-ce qu'on peut améliorer aussi ce qu'on a au niveau des CHSLD actuellement en s'inspirant de ce qu'on vit actuellement à l'intérieur des maisons des aînés? Est-ce qu'on ne peut pas faire un modèle alternatif? Donc, il y a des choses qui sont très, très intéressantes. On va dans le bon sens. Il y a des choses qui ont été intéressantes. Mais je pense que les conclusions des chercheurs vont nous en dire un petit peu plus là, dans les prochaines semaines.
Bien, on va être en évolution parce que la population vieillit, puis les gens qui ont des troubles cognitifs, bien, ça va augmenter également. Fait qu'il va falloir trouver une solution, des belles solutions pour tout ce monde-là tout à l'heure. Ceci dit, clique conférence, il y a des conférences gratuites pour les gens qui nous écoutent.
Ben oui, écoute, tu sais que les métamorphoses aujourd'hui, c'est très populaire. Alors, on a nos intermèdes FADOC qu'on a connus depuis le début des années COVID, ont changé d'appellation pour maintenant s'appeler Clique Conférence, qui symbolise mieux aussi qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire que ce sont des conférences virtuelles qui sont offertes aux deux semaines par la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on a vraiment une programmation qui est fort intéressante là, pour qui s'en vient dans les prochaines semaines, avec une conférence qui va avoir lieu demain. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, mais sur l'intelligence artificielle, on sait que c'est vraiment quelque chose qui passionne les gens aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ça fait partie de notre vie? Et comment ça fera partie de notre vie aussi dans les prochaines années.
Puis qui va s'en servir aussi, hein? Est-ce qu'on va s'en servir pour les bonnes choses ou les mauvaises choses?
Voilà, exactement. Donc, c'est M. Kevin Bouchard, qui est chercheur en intelligence artificielle à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, c'est le fun de voir en plus qu'on a des ressources régionales extrêmement qualifiées qui vont nous donner cette conférence-là qui s'appelle « L'univers fascinant de l'intelligence artificielle ». C'est demain à 14h, ça fait que vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, directement sur notre plateforme fadoc.ca ou encore sur notre page Facebook. À noter également qu'il y aura une seconde conférence le 30 novembre. Je vous en parle tout de suite parce qu'on a vu apparaître de la neige en fin de semaine dans le parc des Laurentides. Signe qu'on devrait avoir encore un hiver.
Oui.
donc, cette conférence-là va s'appeler « Passion motoneige » avec M. Michel Garneau, qui est directeur des relations externes de projets spéciaux à la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Bien, on a beaucoup de personnes dans nos membres FADOC qui pratiquent la motoneige. Donc, on va parler de sécurité, de réglementation, d'équipement, de vêtements, des nouveaux modèles de motoneige. Donc, cette conférence-là aura lieu, elle, le 30 novembre 2024 à 14h. C'est possible de s'inscrire dès maintenant. Donc, les gens peuvent aller encore une fois là, sur notre page Facebook et également à notre site internet fadoc.ca.
Aussi, j'en ai entendu beaucoup parler de la pourvoirie Capoles. J'ai jamais eu le plaisir de y aller. Vous organisez une espèce de petit voyage qui coûte pas trop cher et qui me semble fort intéressant pour tout le monde.
Oui, c'est dans notre concept des activités qu'on a coiffées sous le chapeau de « on sortira pas ». Donc, sortie et repas en deux mots. Là. Ça va se passer au restaurant Mukushan, qui est le restaurant de la pourvoirie du Capoles, qui offre un point de vue vraiment magnifique sur le Saguenay. Puis, dans le fond, notre objectif avec les sorties repas, c'est justement de faire en sorte de permettre aux gens de découvrir des lieux, de découvrir... tout est relié autour de la gastronomie. Donc, on se rappelle qu'on avait fait quelque chose l'an dernier avec tout ce qui était de la cuisine vietnamienne. Donc là, on est plus dans le domaine là, d'un site qu'on veut vous faire découvrir avec de la nourriture intéressante. Ça va se passer le 25 octobre prochain. Donc, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. C'est au coût de 38 $ par personne. Donc, les gens sont attendus là-bas vers 11h15 pour une journée d'activité là, qui va se dérouler
à Sainte-Rose-du-Nord. Hein? Le point de rencontre est à Sainte-Rose-du-Nord.
Exactement.
Okay.
Exactement, pour se rendre. Donc, l'information est encore une fois accessible sur notre site Internet. Donc, une très, très belle activité. Puis, si vous êtes intéressé, je vous invite à faire vite parce qu'il reste approximativement une dizaine de places. C'est une activité qui s'est vraiment envolée en fumée très, très rapidement. Les gens ont vraiment trouvé ça intéressant. Là, cette petite
ben, le menu est intéressant. On va juste le dire comme ça rapidement. Ça peut peut-être tenter des gens pour s'inscrire. Il y a la soupe d'orge et légumes du jardin, petits pois et basilic frais. Il y a le burger de pointe de bœuf braisé, oignons caramélisés, cornichons épicés et mayonnaise fumée, roquette sauvage. On a le goût d'y aller. Dessert du chef en fonction de la saison. C'est ça que vous allez manger si vous vous inscrivez. Hey, c'est génial, ça!
Oui, puis c'est vraiment, comme je le disais, là, c'est vraiment un site qui est magnifique. Donc, dans notre région, donc des fois, on va très loin. Puis à 38 $, on comprend qu'on est vraiment dans une activité là, qui est très accessible et qui va vous permettre de passer une belle journée.
Absolument. Maintenant, on a un article en lien avec « Ménager pour vos transports ». Des économies, j'ai l'impression.
Ben oui, puis écoute, Ménager pour vos transports, c'est pour démontrer comment est-ce que la FADOC, des fois, travaille très fort pour faire en sorte là, de donner des avantages à ses membres qui sont intéressants. Puis, dans le domaine du transport, là, je vais juste vous décliner rapidement 10 rabais qui pourraient vous être utiles avant la saison froide là, qui frappe à nos portes. Bien, premièrement, les gens vont avoir à choisir des pneus d'hiver. Bien, on a développé un rabais qui est accessible sur notre site avec un fournisseur de pneus pour des réductions qui vont aller jusqu'à 10 %. Donc, les gens peuvent avoir accès à ça. L'automne, c'est également le signe de faire attention des fois puis de refaire un anti-rouille sur sa voiture. Encore une fois, on a un avantage au niveau de l'anti-rouille de 5 % avec un partenaire. Avant l'hiver aussi, toujours important d'avoir une bonne batterie hein, pour démarrer parce que ça arrive qu'on a des froids ici au Québec. Donc, on a 10 % avec, encore une fois, un magasin Batterie Expert qui est partenaire avec nous. Vous magasinez vos assurances, bien entendu, parce que votre voiture doit être couverte au niveau des assurances. Même si ça peut, on parlait de motoneige tout à l'heure, c'est la même chose pour votre motoneige. Donc, avec les produits Intact, on a développé des produits spécialement pour les motoneigeurs avec une tarification privilégiée. Voiture électrique, Annick, ben oui, on n'a pas oublié ça, la FADOC, on s'en préoccupe. Donc, si vous venez d'acheter une première voiture électrique, ben vous obtenez un rabais de 25 $ sur l'achat ou de 2 mois gratuits sur l'allocation des différents modèles des bornes de recharge pour le véhicule avec hydrosolution. Puis pour les gens qui vont en Floride, parce que là, on se dit, bon, mais il y a le froid, mais il y a ceux aussi qui vont en Floride.
Mm-hmm.
Ben, les gens qui font du déménagement, on a un rabais sur le déménagement qui est offert avec deux entreprises. Il est également possible de louer un véhicule avec une compagnie qu'on a avec un 20 $ de rabais pour les membres de FADOC. Si vous prenez l'avion à Montréal pour aller... puis moi, tu vois, ça m'est arrivé lorsque j'ai été dans notre voyage vélo. J'ai pris le
en
Park
Europe,
and Fly.
Oui.
Ben, avec ma carte FADOC, j'ai économisé 41 $ sur le Park and Fly. Donc,
okay.
Inutile de vous dire que ma carte FADOC,
c'est
payé très, très rapidement.
Oui.
Et pour terminer, ben, vous savez que l'essence n'est pas tout à fait accessible toujours. Ben, on a une réduction aussi avec Proxy et Proxy Extra de 5 sous le litre. Donc, pour les achats de 25 litres ou plus. Donc, tous ces rabais-là sont accessibles sur le site fadoc.ca, également sur notre page Facebook. Mais lorsque tu regardes tout ça, tu te dis, bien, finalement, ça pourrait être intéressant de ménager pour nos transports.
Absolument. Fait qu'on va acheter notre carte FADOC pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. Et vous pouvez l'acheter à partir de 50 ans et plus. Et on appelle chez vous?
Oui, vous pouvez appeler au 418-668-4795 ou encore aller sur le fadoc.ca. Je rappelle aussi aux gens qu'on a une application mobile là, qui comporte également là, tous les rabais qui sont accessibles, peu importe les régions où vous allez. Il y en a plus de 3000 au Québec, donc c'est vraiment très, très intéressant.
Merci beaucoup, Patrice. On se reparle la semaine prochaine.
Au plaisir. Bye-bye,
Annick. Bye-bye.